Okay. 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 On va la faire courte. Off courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale et j'en passe. Off courte. Présenté par Smooth Smooth, l'article vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. Off Court, Off Court, Off Court, Off Court, Off Court, Off Court, Off Court.
Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, comme d'hab, un nouvel invité, un nouveau guest, une nouvelle vision du skate-bas. Je ne sais pas par où commencer pour le présenter, parce que déjà, d'une, c'est un ami d'enfance avec qui on a tapoté les ballons en région lors des derbys contre Neuilly-sur-Marne. Aujourd'hui, il est là devant moi, j'aime bien dire une réussite, même s'il va dire que le mot il est fort. C'est quelqu'un qui s'est construit un self-made et au travers du ballon, il a réussi à sortir pas mal de choses. Je vais bien entendu vous présenter François Niam. Aujourd'hui, il est consultant, il est agent, créateur de contenu, si je peux me permettre, non ?
Ouais, c'est
il
ça.
Il est multitâche, voilà. On va dire ça, il est multitâche. Et aujourd'hui, c'est un kiff de l'avoir devant nous. François, comment vas-tu ?
Ouais, écoute, ça va très bien. Merci à toi de me recevoir sur le podcast. Salut à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, devrais-je dire.
Nos auditeurs, oui, exactement. En tout cas, merci, j'ai bafouillé dans la présentation. Il y a tellement de choses, tellement de contenu que des fois, je n'arrive pas à en mettre les ordres. Mais il est là sur Canal Plus Africa. Il est là avec son podcast Disrupteur, c'est
ouais,
pas ça.
C'est ça.
Il est agent de joueur et il a plein de projets à côté. Du coup, la liste, elle est longue, mais sachez-le, c'est un gars qui milite et qui fait ça pour l'Afrique.
Pour l'Afrique, j'aime à dire que je suis un homme du peuple, tu sais, tu me connais, tu l'as si bien dit, c'est un long parcours depuis Neuilly-sur-Marne jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on n'oublie pas d'où on vient. C'est important de savoir toujours l'origine.
Clairement. Et aujourd'hui, monsieur et mesdames les auditeurs, on va vraiment parler du basket, mais dans un sens global de la chose. Vous aviez l'habitude d'avoir des joueurs, des personnes spécifiques. Là, on va vraiment parler d'une englobalité et qui va être intéressante. Et ma première question que j'ai envie de te poser, François, c'est comment va le basket africain ?
Bah écoute, le basket africain, je pense qu'il est de plus en plus puissant, si je puis dire. Il y a eu des choses qui se sont mises en place depuis de longues années. On a pu voir à notre génération, voilà, moi j'ai 43 ans, donc quand on était jeune et qu'on commence le basket, des mecs comme Hakim Olajuwon ou encore Dikembe Mutombo être des exceptions, si je puis dire.
Clairement.
Aujourd'hui,
c'est devenu banal,
c'est devenu une référence, c'est devenu presque une obligation, j'ai envie de dire, pour la grande ligue, en tout cas la NBA, et même les grosses ligues européennes, d'aller s'alimenter dans les réservoirs de joueurs africains, soit qui sont directement sortis d'Afrique vers les États-Unis, l'université, ou soit passés par le réservoir des centres de formation européens, que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il était temps, j'ai envie de dire, que l'Afrique soit mise en avant.
Exactement.
Et là, avec tout le potentiel qu'il y a, le potentiel humain, le potentiel athlétique, le potentiel sportif, culturel, de voir toutes ces réussites africaines en NBA ou dans le football même, mais là, restons focus sur le basket, comme un MVP Joel Embiid, ou encore un Yanis Antetokounmpo qui, même s'il porte la nationalité grecque, est nigérian d'origine. Voilà, toutes ces Pascal Siakam, champion NBA, d'origine né et grandi au Cameroun. Christian Koloko aujourd'hui avec les Raptors, les Sénégalais qui sont passés comme Gorgui Dieng récemment, Ibaka, une longue carrière, même si aujourd'hui là, au Bayern de Munich. Voilà, ça montre quand même que les joueurs africains sont de plus en plus présents, au haut niveau. L'Afrique se développe, de plus en plus d'initiatives de particuliers comme de grosses franchises, enfin de grosses structures comme la NBA qui fait ses camps, mais il y a plein de petits indépendants qui font des petites académies au Sénégal, au Congo, au Cameroun ou ailleurs, des petits stages, des petites académies à leur niveau qui permettent d'alimenter avec des joueurs, eh ben, ces grosses structures, on va dire que sont la NBA, avec la balle en l'occurrence qui est en train de se mettre en place, ou les NBA Academy, voilà, il y a une vraie évolution du basket africain sur le continent et en dehors du continent, et ça fait plaisir.
Surtout quelqu'un comme toi qui, dès que ta carrière de basketteur s'est arrêtée, que tu as voulu rester dans le monde du basket au travers de la représentation, au travers de l'épanouissement du basket africain, tu t'es directement dirigé vers les origines du pays.
C'est ça.
Et tu fais partie un peu de ces avant-gardistes qui avaient ce regard, ce regard anticipé sur ce basketball, non ?
Oui, en fait, tout à l'heure, tu as dit que j'étais multitâche, une sorte de couteau suisse, j'ai envie de dire le couteau camer.
Tu vois, il est dangereux ce couteau. Il coupe le poulet bien, il coupe le poisson bien, il coupe les bananes bien, il est dangereux.
Il coupe l'acier, il coupe le bitume, il coupe tout ce qui est. Hein, on a pu le voir récemment avec Francis Ganou encore. Le couteau camer, c'est dangereux.
C'est dangereux, c'est dangereux.
Mais ouais, non, effectivement, quand j'arrête de jouer, si tu veux, il y a une fin de jeu en deux temps. J'ai mis une pause d'abord dans un premier temps parce que j'ai une opportunité pour aller coacher aux USA. Donc à l'époque, je vais dans un programme qui s'appelle Stone Ridge Prep, qui est en Californie, qui était l'une des premières prep schools, si ce n'est pas la première, en côte ouest, parce que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus sur la côte est. Et on a bâti un programme, ce qu'on appelle une powerhouse, classé 14e du pays la première année, on est monté jusqu'à 6e du pays. Des joueurs comme Amadou Ndiaye, sénégalais, international sénégalais, drafté aux Wizards, est passé par là. Nikola Vucevic, qu'on a développé, que personne ne connaissait, qu'on a presque supplié Tim Floyd de USC de le récupérer.
C'est fou ça.
Trois ans après les 17e de la draft.
C'est fou ça que on oublie tout ce qui a pu être mis en place pour juste mettre en avant des programmes qui récupèrent pratiquement le produit fini.
Ben ouais, parce qu'en fait, si tu veux, la vision à l'époque, c'est de se dire comment on a fait partie, moi y compris, de joueurs qui partent vers les États-Unis, qui s'exportent assez tôt pour jouer en high school ou à l'université ou ailleurs. Il y a une première vague à l'époque de joueurs qui partaient énormément. Ça se fait de moins en moins parce que j'ai envie de dire que la France perdant ses plus gros potentiels et ses plus gros talents, a réussi à se restructurer un petit peu, et du coup, même beaucoup, j'ai envie de dire, et du coup, conserver un peu ses pépites via les centres de formation, via l'INSEP, peu importe, et les faire jouer très tôt. On a pu le voir avec Batum à l'époque, Nidi Kina, ou encore les deux colos, ou récemment Wembanyama ou Koulibaly qui jouent très tôt en pro. Mais il fut un temps où c'était pas comme ça. Et pour gagner,
C'était porte fermée.
Et surtout, ce profil de joueur un petit peu, j'ai envie de dire, hybride, ouais. À l'américaine, entre guillemets. Qui n'était pas conventionnel il y a 25 ans quand on commence le basket. Donc, c'était une opportunité, on va dire, d'aller continuer son développement. Et moi, étant passé par là et ayant l'opportunité, en fait, d'être coach dans une structure comme ça, assistant coach, la volonté, c'est vraiment d'avoir un programme sur lequel on avait la main. Et on pouvait, plutôt que d'envoyer des joueurs dans des programmes et les laisser en développement par d'autres personnes, et ben se focaliser à avoir, comme on appelle, tout in-house. On a la structure, nous sommes les coachs, on recrute les joueurs qu'on ramène chez nous et on les développe.
C'est
et évidemment,
du homemade, quoi.
C'est du homemade et c'est du service personnalisé, j'ai envie de dire, où on sait qu'on va passer un certain nombre d'heures à répéter les gammes avec des mecs, à les faire travailler sur leurs lacunes. Et à les développer. Aujourd'hui, comme je te dis, un mec comme Ahmad Baye qui quitte à l'époque le Havre pour venir à Stone Ridge, aujourd'hui, il a la carrière qu'il a, je pense, parce qu'il a quand même bénéficié d'une formation, un ajustement, on va dire, de formation personnalisée à sa sortie du Havre. Il n'était pas forcément connu et recruté comme ça. Et voilà, ça, c'est des choses qui rendent quand même, en tout cas, qui nous ont rendu fiers. J'ai repris le basket par la suite parce que justement, au sortir de cette expérience de coaching où je ne me suis pas forcément retrouvé l'âme d'un coach, pour être très transparent.
Est-ce que ce n'est pas dû sur le fait que tu te trouvais encore jeune ?
Alors oui, il y a eu de ça. Il y a eu une sensation de, on va dire, de travail inachevé, entre guillemets. Mais il y a eu aussi la réalité, c'est que je pense que si on doit me qualifier dans le coaching, je serais plus un trainer qu'un coach. La partie spécifique développement sur le terrain avec des mecs, ça me convenait plus que l'aspect global du coaching, changer les mecs, savoir quand faire les changements, quand prendre les time-outs, analyser des plays, tout ça, c'est pas forcément un aspect du métier ou de l'industrie qui me plaisait, en tout cas dans lequel je me retrouvais.
Je vois ce que tu veux dire.
Donc, j'étais encore un peu en train de me chercher et on arrive à l'année 2007 où là j'ai une ribambelle de moi étant en 80, 2007 j'ai 27 ans, une ribambelle d'amis et de la même génération qui commencent à me dire mon gars, mon agent là il me plaît pas, lui il me plaît pas, lui il me répond pas, lui j'arrive pas à le joindre, lui il fait n'importe quoi, t'as le truc, vas-y, gère-nous. Ouais. Donc je réfléchis, je me dis écoute, c'est peut-être ça qui pourrait me plaire parce que moi j'ai toujours rêvé grand et j'ai rêvé d'NBA, j'ai pas réussi à y jouer. Il y a une forme de précarité dans le basket français, si on ne fait pas partie de la poignée d'élus qui ne me plaisait pas. Donc je me dis voilà, je vais peut-être passer de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, et pourquoi pas dans l'accompagnement de joueurs. J'avais l'aspect...
Tu connaissais les besoins.
Je connaissais le jeu, exactement.
C'était le combo qui leur convenait le mieux, quelque part.
Exactement. Et puis, j'ai eu des sollicitations. Si tu veux, c'est un truc qui... Il y a eu un besoin où on est venu me chercher. Donc, j'ai eu une première génération de joueurs qui étaient des amis, on va dire la vérité. Ouais. Et puis, très vite, j'ai continué à jouer 3-4 ans jusqu'en 2011. Et très vite, j'ai eu deux joueurs NBA. En 3 ans, j'avais Luc Bahamouté et Joel Embiid, qui est drafté en 2014, alors que je raccroche les baskets en 2011. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment devenu ma carrière, on va dire, pendant 10 bonnes années, même si je le suis toujours. J'ai oublié un passage. Avant ça, j'ai fait du scouting. Parce que quand je me cherchais sur le coaching potentiellement, je voyais aussi que le scouting pouvait être une opportunité de rester dans le milieu en donnant ses services à des structures comme des universités américaines ou des clubs pro pour leur faire de l'évaluation de talent, clairement.
Bien sûr.
Voilà, tu te déplaces sur des événements, tu regardes un peu les prospects.
Le premier écrémage, voilà, et ensuite, eux, ils viennent à la fin pour pratiquement finaliser parce qu'ils ont le maximum d'informations.
C'est ça, ils ont toutes les informations sur les prospects européens, africains ou autres. Donc j'essaie de faire un condensé, mais pour nos auditeurs, c'est important pour moi de partager ça parce qu'on a tendance à penser qu'il y a beaucoup, il n'y a que le sport, il n'y a que le joueur. Et on se dit c'est joueur ou coach.
C'est là où j'allais en venir. Tu vois, déjà à travers de ce que tu viens de raconter, si tu es quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'être professionnel, eh ben, tu peux encore travailler dans ton élément qui te plaît
tout à fait.
Au travers de tout ce que tu viens d'énumérer.
Tout
du
à
scouting,
fait.
Du scouting,
training,
agent,
conseiller financier, vidéo.
Il y a plein de choses.
Kiné, c'est-à-dire qu'il y a général manager, c'est aussi un truc dont on ne parle pas, ouais. Mais aujourd'hui, on peut voir des réussites. Alors c'est vrai que je vais revenir sur l'Afrique après, mais un mec comme Masai Ujiri, qui est nigérian, que je connais très bien et que je salue s'il nous écoute, il a commencé dans le scouting à l'époque, jeune scout pour l'Afrique, je crois que c'était pour les Cleveland Cavaliers, et le fait qu'il ait fait du bon boulot de plus en plus et qu'il ait permis à ces franchises-là de recruter les bons joueurs, il a réussi à avoir un job d'assistant GM, puis ensuite de general manager à Denver, puis à Toronto, jusqu'à amener le titre à Toronto, qui est le seul et unique titre de cette franchise. Et
clairement.
Donc ça, ce sont le sport professionnel de haut niveau, c'est un écosystème très large. Mmh. Et on pense souvent, je suis joueur et si je ne suis pas joueur, je deviendrai coach. Mais il y a tellement, tellement d'autres métiers. Donc pour revenir à l'Afrique, oui, moi ce qui m'a fait, quand j'ai vraiment passé la vitesse dans le milieu d'agent, c'est que je me suis dit, ok, je suis sur Paris. Évidemment, c'est un vivier exponentiel, mais en même temps très concurrentiel parce que tout le monde est là et j'ai envie de dire... moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Ça fait longtemps que je fais pas.
Ça fait longtemps qu'on te connaît. On sait que la normalité, c'est pas toi.
Ça me plaît pas. Donc, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je suis métis camerounais. J'ai des attaches au Cameroun. J'ai accès au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Congo, à des pays où j'ai des entrées. Donc, je sais qu'il y a très peu de choses mises en place là-bas et d'opportunités pour ces gamins. On parle de ça en 2008. Hein, de se développer. Donc, je me dis, à mon petit niveau, va faire ce que tu peux là-bas par le biais de mettre des programmes en place, des camps, des événements, et puis faire un peu de scouting et permettre à ceux que j'aurais détectés de pouvoir les accompagner vers les USA principalement. Mais après, je n'ai pas fait que ça. Et c'est ce qui a permis à des Joel Embiid ou encore Pascal Siakam, Christian Coloco, je parle des Camerounais parce que c'est ceux avec lesquels j'ai été le plus impliqué, d'arriver au plus haut niveau en NBA. Et ça, je pense que c'est une fierté de savoir qu'on a aidé des mecs à partir en high school.
Clairement.
Et de là, ils sont...
Clairement. Et tu as recité à plusieurs reprises un nom. C'est vrai que sur cette période-là, quand j'ai entendu ton nom associé à ce joueur-là, mais autour de cette association-là, il y a eu plein de choses. Je vais te poser la question aujourd'hui. Raconte-moi la vraie histoire de Embiid et toi au moment de la draft.
Ah, ça, c'est...
Attends, voilà.
Ça démarre un peu plus tôt que la draft.
Avant la draft, je vais même t'offrir un joker si tu me dis, t'as signé des trucs et tu peux pas développer.
Ah, mais on peut développer tout ce dont tu voudras dans la limite de ce que j'ai envie de dire. Voilà. Mais non, bien sûr, écoute, Joel Embiid, c'est simple. La vraie histoire, tu sais, ce qui est marrant, c'est sur cette planète, il y a beaucoup de gens qui réécrivent l'histoire.
Merci, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère... Je l'ai entendu, mais je ne l'ai jamais pris pour argent comptant. Et aujourd'hui, c'est parce que tu recites le nom. Moi, ce n'était pas forcément mon envie de parler d'Embiid. Embiid, c'est, voilà, c'est une fierté pour moi que tu aies pu l'accompagner. Mm. L'accompagner aujourd'hui, de le voir là, c'est... Voilà, on a des frères qui sont... On est contents pour leur réussite. Mais là, le fait que tu reparles, c'est revenu dans ma tête comme ça. Et j'ai dit, attends, non, Mousse, tu ne peux pas passer à côté de ça.
Le scoop, hein, la breaking news.
Le breaking news.
Embiid, on repart sur l'année 2011. À l'époque, l'un de mes joueurs, Lungba Amoute, qui a été longtemps en NBA sur 12 ou 13 ans.
En tant que joueur, c'était le représentant camerounais.
Bah oui, c'était, on va dire, le premier, même si Ruben Boumtché avait été là de par le passé. C'est vraiment lui qui a réussi, à l'instar d'un Tariq Abdoulouad, de vraiment s'installer, de signer un deuxième contrat et un troisième, et voilà, d'avoir une longue carrière avec beaucoup de matchs.
Trois contrats, c'est une longue carrière.
Ah oui, mais c'est... Et surtout, aujourd'hui, quand on sait que la moyenne, c'est quoi, 4-5 ans en NBA ?
C'est 4-5 ans. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Hein. On en voit plein qui ont du mal. Hein.
Ah non, c'est pas évident. Peu importe où on est drafté, si on peut être drafté numéro 1, 2, 3, et Anthony Bennett, qui est drafté numéro 1 de la draft il y a quelques années, au bout de 2 ans, il est en Turquie.
C'est ça.
Donc voilà, maintenant, pour revenir à ça, ben, on avait un camp qui était mis en place à Yaoundé, le Lungba Amoute Basketball Camp, donc sur lequel on faisait... Enfin, c'était un camp annuel, mais toute l'année, on travaillait avec les coachs locaux sur la détection. On avait un programme qui équipait pas mal de petites académies locales et des clubs locaux. Et sur la fin de l'année scolaire, on faisait des présélections dans 5 zones du Cameroun. Donc Yaoundé, Douala, Bouéa, Bafoussam et le Nord. Donc bah, Joël, en fait, il est arrivé un peu par hasard, dans le sens où c'est un des coachs locaux qu'on utilisait, Guy Mujo, qui nous a dit, voilà, j'ai un gamin qui est pas mal, il est grand et truc, mais il est débutant, il sortait du volet. Donc je crois qu'il commence de mémoire le basket en janvier 2011, et le camp il a lieu en juillet, donc il a 6 mois de basket dans les dents. Sorti du volet, c'est pas celui c'est qu'on
pas
voit
la,
aujourd'hui.
C'est pas la même motricité.
Ben en fait, c'est ça justement, là tu vois, tu mets le doigt sur un truc, c'est que moi ce qui me tape dans l'œil justement, c'est sa motricité, ses jambes, je vois qu'il a des jambes solides, ouais. Et son timing pour les contres et le rebond. Il sortait du volet, donc il avait un espèce de timing particulier pour aller chercher des ballons en hauteur, que des grands qui débutent n'ont pas toujours.
Ouais.
Donc ça, déjà, pour moi, ça me tape dans l'œil. Et on avait un accord avec la NBA qui, en gros, nous utilisait pour récupérer les 5 invités issus du Cameroun pour le camp Basketball Without Borders, qui est le camp continental. Donc, on était un petit peu les yeux de la NBA
au Cameroun.
Et donc, il y a eu un problème. Parce que quand on met les noms, on donne les 4 noms de 4 joueurs intéressants, et on met Joël dans les 5. Et là, il y a... La moitié de nos coachs, et pour ne pas dire la totalité des coachs, qui disent « Mais non, il n'est pas prêt, il n'est pas bon, il n'est pas ci, il n'est pas ça. » Alors, oui, il n'était pas prêt. Et oui, il n'était pas le MVP qu'on a vu il y a quelques mois.
Mais toi, tu as vu quelque chose ?
Bah, tu vois le talent. Mmh. Tu vois le talent parce que tu vois, comme je te dis...
Le diamant brut.
Au niveau de ses attributs physiques, tu vois quelque chose d'exceptionnel. Il faisait 2m5 à l'époque, mais mobile, des jambes solides. Donc, on se dit pas forcément sujet à la blessure. Et un vrai timing, surtout pour, comme je te dis, contre et rebond. À côté de ça, le mec, c'est une éponge. Tu lui montres un mouvement qu'il n'a jamais vu de sa vie. 2 fois, 3 fois, la 4e fois, c'est intégré et ça ne bouge plus. Donc, il a une vraie capacité d'intégrer une information qu'il ne connaît pas.
Ça, c'est une valeur très, très rare.
Et ça, c'est spécial.
C'est spécial.
Donc, de là, on décide de l'accompagner. Pour fast-forward, je le place à Montvert Academy. Où il ne joue pas, pour ceux qui connaissent un petit peu le high school, JV, c'est on va dire l'équipe réserve, limite le loisir.
Ouais,
et il jouait en JV, junior varsity, au lieu de jouer avec les varsity qui est l'équipe principale. Jusqu'au mois de février, alors qu'il est junior et il est donc l'équivalent de la première. En général, on est déjà en varsity à ce moment-là.
Exactement.
Et lui, jusqu'en février, il joue pas parce que bah, on dit qu'il y a Karin Johnson devant lui, il y a un tel, il y a des gros noms.
Il y avait déjà des noms qu'il fallait faire mousser.
Sauf que, au bout d'un moment, on se dit qu'il faut changer les choses. Et comme je te dis, en allant toujours à l'inverse du conventionnel, j'ai dit, on va le sortir de Montverde. Et là, ça devient un problème.
Si c'est problématique et ils ne font pas jouer, à un moment, il faut trouver une solution au joueur. Je pense qu'en plus, tu t'es engagé auprès des parents et tout ça, son clip, ah bah, s'il quand, se retrouve dans une situation...
Quand tu sors un gamin d'une famille en Afrique, c'est un engagement.
Ah, on connaît.
T'es africain comme moi, on connaît l'importance que c'est la famille en Afrique. Et quand une famille te confie son enfant, c'est comme si tu deviens le parent de cet enfant.
C'est ça, exactement.
Donc voilà, devoir d'engagement. On le met à The Rock School, qui est une école un peu d'un calibre moins prestigieux, on va dire, mais tout aussi bonne en termes de compétitivité. Mmh. Et de là, il explose sur sa dernière année, recruté par tout le pays. Il va à Kansas, et de Kansas, voilà, on connaît la suite. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne voulait pas aller en NBA. C'est-à-dire que, clairement, moi, je pense qu'il a eu peur. Parce qu'en avril 2014, ça fait à peine 3 ans qu'il joue. Et en 3 ans, il passe de Yaoundé, où il mangeait du soya et il joue au volet. et il n'avait jamais entendu parler de ce que c'était que la AAU, à... Tu mets la télé sur ESPN, tu passes tous les jours en première page, en prime time, sur Slam Magazine, tu es le cover, tu vas au resto Drake qui te demande ton numéro de téléphone, c'est aller trop vite.
Ça, bah, clairement, la peur s'installe, la pression s'installe.
Et je pense que exactement, la pression s'est installée, ils ne se sentaient pas prêts, les coachs de Kansas voulaient absolument le conserver parce que, bah, pareil, ils se disent, bah, on perdra un joueur qui peut nous aider à gagner. Donc c'est là où le haut niveau, on commence à voir que ce n'est plus du jeu. Tant que c'est de l'amateurisme, tout le monde est copain, tout le monde est sympa.
Mais le haut niveau, là, les dents commencent à sortir.
Ça sort, ça commence à griffer. C'est là où il faut être un couteau camer ou un couteau quinf, parce que le couteau suisse, il claque.
Non, il ne faut pas sortir le couteau de beurre. Il ne faut pas sauter le couteau de beurre. Là, sort les vrais couteaux aiguisés que tu as frottés sur le caillou.
Bah ouais, tu vois, aujourd'hui, cette barbe blanche que tu vois là, ce n'est pas l'hérédité. Hein. C'est le passage, on va dire, à la vie d'homme, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire.
Et donc voilà, donc, si tu veux déjà combattre avec son coaching staff qui lui mettait en tête de rester faire une Tim Duncan. Il lui disait, tu sais, Tim Duncan, il a fait 4 ans, il a été drafté numéro 1, Olajuwon aussi, en gros, tu peux le faire. Sauf que les mecs, c'était en 84 et en 97 ou 18 pour Tim Duncan. Là, on était quand même en 2014. Le game, il a changé,
ça va très très vite.
Et la façon de drafter n'est plus la même. Tu drafts du potentiel de nos jours, tu drafts plus sur du produit abouti.
Les gens ont du mal à comprendre qu'avant, c'était des joueurs finis.
C'est ça.
Qui devenaient, dans les 2 premières années, des franchise players.
C'est ça, qui faisaient 4 ans d'université souvent.
Aujourd'hui, on drafte des prospects, ils investissent. C'est des paris.
Mais en fait, c'est ça. C'est que comme le contrat rookie dure 4 ans, eh ben, on va drafter souvent beaucoup plus jeune en se disant, voilà, si j'ai un mec de 19 ans qui rentre en pro, j'ai 4 ans en gros pour le former, voir ce qu'il donne. S'il est prêt à 23 ans sur son deuxième contrat pour le prolonger comme des Jamorent ou quoi, machin, on le fait. S'il n'est pas prêt, on libère et on prendra les prochains.
Clairement.
Donc c'est devenu une industrie vraiment de la consommation et
du
potentiel.
C'est un modèle économique.
C'est un modèle économique particulier. Donc bah voilà, pousser Joel Embiid déjà à le convaincre à aller se présenter, ce qu'il a fait. Ensuite, il a fallu le convaincre de signer avec moi parce que maintenant, il avait des sollicitations. Donc, il y a Rock Nation qui l'appelle tous les jours. Il y a Drake qui vient le voir. Il y a du monde.
La barbe blanche.
Ah, la barbe blanche, cheveux qui commencent à tomber, tu vois. Bon, après, c'est vrai que son père et sa mère ont été très, très fermes avec le fait que, voilà, aujourd'hui, tu restes avec des gars qui sont venus te donner une opportunité. C'est eux qui t'ont cherché, c'est eux qui t'ont accompagné. C'est grâce à eux que tu es là. Mm-hmm. Donc, tu leur dois cette loyauté. C'est un peu comme ça, pour être très transparent, que je continue de travailler avec lui parce que j'étais à deux doigts de le perdre à ce moment-là.
Ouais.
Quand t'as Jay-Z qui appelle le gamin tous les jours, qui dit qu'est-ce que tu veux ? Tu veux Rihanna ? Tu veux une Bentley ?
J'ose même pas imaginer dans quel état t'étais. Quoi.
Ah ben bah écoute, c'est bien, tu sais, c'est formateur, tu vois.
T'es obligé, t'es obligé de, comme Embiid, d'être une éponge et...
d'encaisser le truc et de très vite intégrer les informations qui sont jetées à toi, bonnes ou mauvaises. Et de rester debout. Malgré tout, il va falloir que tu trouves le moyen d'être plus performant, d'être plus efficace, d'être plus protecteur aussi, parce que c'est pareil. Aujourd'hui, on se dit, tu sais, les agents, ils ont une réputation qui est ce qu'elle est. Mais pour être de l'autre côté de la barrière maintenant, je pense qu'elle est des fois en partie comme ça, parce que certains joueurs ont été très très durs avec des agents qui ont travaillé, qui ont développé, qui ont sorti des mecs de nulle part. Mmh. Et puis bah, une fois que tout brille, tout se passe bien pour les mecs, ils passent à autre chose ou ils passent à plus sexy.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc je pense qu'il y a un espèce de curseur à trouver, mais évidemment, les agents aujourd'hui, on les voit, ils sont très protecteurs parce qu'ils savent ce qu'ils font des fois ou ce qu'ils mettent en place pour des gamins. Et ils essaient au maximum de protéger ça, parce que quand on part dans la cour des grands là-bas, de l'autre côté, là, à NBA, là.
Faut être fort, hein, faut être homme.
C'est comme quand tu sors du CM2 et que tu arrives en 6e, tu vois, dans la cour de récréation, là. C'est plus la même chose. Hein.
Je vois très bien le tableau, mon pote.
Quand tu t'appelles les petits au CM2, là, hein, là tu es avec les 3e.
Là, tu redeviens le petit.
Ah ouais, donc c'est. Voilà, c'est. Mais oui, pour clôturer le sujet Embiid. Bah écoute, tu me demanderas ce que tu as envie de me demander, mais c'est un chemin de 5-6 ans d'accompagnement entre son départ de Yaoundé et le moment où on s'est séparés. Bon, aujourd'hui, c'est une fierté de me dire que même si je ne suis plus avec lui, eh ben, c'est le MVP en titre de la plus grosse ligue du monde. Il est double meilleur scoreur 2 années d'affilée, il est multiple All-Star. Et je pense que ça va continuer, à mon avis, c'est parti pour durer encore un peu. Donc voilà, tu es associé à des joueurs comme ça, tu as contribué à la réussite de nombre de joueurs africains, je te dis de manière, en tant qu'agent ou en tant que coach à l'époque, enfin je veux dire, si je pars sur Ibrahima Thomas, si je pars sur Amadou Ndiaye, les internationaux sénégalais, si je pars sur Lamine Diané, Vucevic, comme je te l'ai dit, tu vois, Ahmad Mbaye, tous les Camerounais dont j'ai pu te citer juste avant, enfin il y a quand même une vraie colonie de joueurs qui n'étaient entre guillemets pas prévus.
À exploser,
qu'on a réussi à sortir, à développer et à amener, en tout cas, à maximiser le potentiel. Et ça, c'est une vraie fierté.
Ah, j'imagine. Franchement, c'est le genre de choses qu'on souhaite voir au travers de notre basket, au travers de la réussite des uns, c'est le plaisir des autres. Et c'est bien comme ça que je le prends quand je vois tout ce microcosme qui explose aux mains de joueurs qui auraient voulu avoir ce parcours-là, qui ne l'ont pas eu, mais indirectement le vivent au travers de la réussite de leurs jeunes. Tu vois, c'est le social.
Bah, y a une partie de social, qu'on le veuille ou non, parce que même si, en tout cas pour ma part, hein, moi je parle en mon nom, même si tu deals avec les instances de très haut niveau, parce que quand on parle de NBA, c'est le très haut niveau, que ce soit athlétique, physique, infrastructurel ou même financier, eh ben, tu peux t'attendre à rentrer que dans le business et vouloir faire que du business. Et même si beaucoup, en tout cas moi, des fois, je me surprends à dire « Ouais, il faut que j'ai l'esprit que business uniquement », ben, je peux pas. Je viens du 93, je suis moitié africain, moitié européen.
T'as partagé des paquets de gâteaux à 20 ?
On a partagé des paquets de gâteaux à 20. On a galéré, on a pris les transports, on a fait tout ce qu'on a fait avant d'en arriver là. Et aujourd'hui, bah, comme je te dis, quand je vais dans une famille africaine recruter un gamin et demander la permission, on va dire, à la famille de me donner la confiance, eh ben, j'ai un devoir d'engagement social par rapport à ça, tu vois.
Ouais. Franchement, chapeau.
Bah, écoute, je te remercie.
Je te souhaite que ça continue. Et ce qui est bien, c'est que ta manière d'être, tu as réussi à la diffuser, à la projeter sur ton podcast, ce podcast de Disruptor, où tu es un peu comme dans la maison aujourd'hui, sans filtre.
Bah écoute, tu sais, alors là, c'est le volet média maintenant que je vais ouvrir. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans les médias de manière régulière. Je suis consultant avec Canal Plus Afrique, comme tu l'as dit. Donc, bon, sur différentes émissions, mais principalement sur la NBA. Donc, Canal NBA, c'est l'équivalent, on va dire, de NBA Extra qu'on a ici sur beIN Sports. Et donc, les commentaires de matchs, voilà, je fais Talent d'Afrique de temps en temps. C'est quelque chose qui me plaît parce que bah, c'est relativement facile, j'ai envie de dire, d'aller commenter un match quand tu regardes les matchs NBA, quand tu maîtrises. Moi, je regarde les matchs de high school, université jusqu'à la NBA. Donc, c'est ce que je fais quoi qu'il arrive sur mon canapé.
C'est ça. Même si tu n'es pas derrière un micro, tu commentes.
Exactement. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de dire qu'il y a une aisance naturelle à faire ce métier. Et par contre, ce qui me tique un peu avec les médias, que ce soit sportif ou généraliste, hein, c'est que des fois, on en parlait tout à l'heure, il y a une vérité qui n'est pas toujours la vérité. Et ça m'agace.
Ça m'agace, tu vois. Et cette vérité-là m'agace même dans la globalité de cette sphère sportive où tu vas voir, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, où dire d'un joueur qu'il a été nul sur l'instant T fait de toi un héros. Bah, alors que pour certains, pour ce microcosme, encore une fois, il faudrait avoir un discours politisé, enjolivé. Il a fait un mauvais match, c'est pas grave, parce que ça a toujours été un gros joueur. Mais
c'est culturel, et ça dépend une fois de plus, de mon expérience, quand je vois des matchs commentés aux États-Unis et la façon dont, par exemple, on commente en Europe, déjà, je vois que c'est différent. Et même selon le sport, je vois quand les commentateurs sportifs football commente et comment dans le basket ça commente, déjà, ce n'est pas les mêmes façons de faire.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a, il y a une culture et du sport et de l'endroit. Après, moi, je vais être plus poussé que ça, dans le sens où ça, c'est vrai que ce sont des détails. Ça, il y aura des gens qui vont être dans la culture de l'instant. Et ceux qui vont être, comme tu l'as dit, très édulcorés, très... Ça, c'est pas très grave pour moi. Moi, ce qui me...
Moi, je pense que si, parce que c'est des trucs, c'est des émotions que les gens vivent sur l'instant T, et c'est des émotions qui vont pas se reproduire sur un prochain match.
Donc... Oui, je suis d'accord. Mais alors après, quand tu dis d'un mec, par exemple, je vais donner un exemple concret. Cam Thomas... qui est l'un des arrières des Brooklyn Nets.
Ouais.
C'est un gamin que j'ai eu la chance, pour moi, de découvrir en la saison 2018-2019.
Ouais.
D'accord ? Moi, mon fils, il joue aux États-Unis, en high school. Et quand je vais le voir, il joue contre O'Keeffe Academy. Okay. Et donc, il joue contre ce fameux Cam Thomas. Mais à l'époque, il y a Cockburn, qui est un big man qui est parti à Illinois, et il y a Cole Anthony dans l'équipe. Oui. Donc, tous les yeux sont rivés sur eux. Sauf que moi, je vois un gamin, je dis, c'est quoi ce gamin ? Comment il est fort ? Le mec, il taffe, il truc, il machin, athlétique, il met des TGE, cross. C'est-à-dire que la panoplie complète. Et au bout d'un moment, ils jouent deux fois. Mon fils joue deux fois contre ces mecs-là. Deuxième match, pareil, si ce n'est mieux. Et Cole Anthony se blesse. Donc, si tu veux, il n'est même pas mis en valeur, Cole Anthony, parce qu'il se fait la cheville au bout de 3 minutes.
Mm-hmm.
Donc, j'ai mon fils, mais c'est qui ce gamin, machin et tout. Il me dit, il regarde sur le truc, il s'appelle Cam Thomas, ouais, c'est un junior et tout. Donc, je commence à le suivre. L'année d'après, il devient meilleur scoreur des États-Unis. Et il est boycotté du McDonald's All American, du Hoop Summit, des trucs qu'ils ne le prennent pas. C'est l'année de la pandémie, 2020. Donc, Dieu merci pour lui, entre guillemets, les événements n'ont même pas lieu.
Ils n'ont pas eu lieu, donc, allez, quelque part, voilà.
C'est, on va dire, un lot de consolation. Il va à LSU, et à LSU, il est encore meilleur en tant que freshman. Je crois qu'il a 25 points de moyenne.
Exactement.
Et il est drafté en fin de premier tour, et il va au Nets pendant 2 ans quasiment, et il ne joue pas.
Il y avait du monde à ce moment-là.
Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que le gamin... Moi, je le vois jouer depuis 5 ans. Je sais exactement quel niveau il a. Et en fait, arrivant sur des émissions, des fois, ben, quand tu entends dire certains collègues ou quoi, ah, ce mec-là, il n'est pas bon ou il n'est pas prêt, eh ben, ça peut frustrer parce que tu sais qu'au final, le talent qu'il a, le mec, tu l'as vu. Toi, tu as le temps de le voir sur 3, 4, 5 ans. Et c'est peut-être pas qu'il n'est pas bon, c'est peut-être qu'il n'est pas dans la bonne situation, la bonne opportunité de se montrer.
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on parle souvent de situation ou d'opportunité. C'est pas forcément, faut pas résumer le fait que le joueur ne soit pas bon parce que il est pas bon. C'est tout, c'est l'englobalité.
On est d'accord. On est d'accord. JaVale McGee, c'est ce qui s'est passé à l'époque. JaVale McGee était en NBA, il dominait. Après, il a eu une période de 3-4 ans, il était quasiment sorti de la ligue, personne ne voulait de lui.
Bon, on le voyait que dans les Shaq Ten Fool.
Et ben, il repart aux Warriors par la petite porte, la queue entre les potes, qu'il a relancé, il gagne un titre et qu'il a remis, si tu veux, au goût du jour parce qu'ils ont su l'utiliser.
Clairement.
Dans un système qui lui convenait.
Clairement.
Donc, moi, c'est là où je suis un peu puriste, c'est que j'ai un regard différent sur le sport. Ayant joué, ayant coaché et m'étant occupé quand même d'athlètes de haut niveau, j'ai pas envie de laisser dire tout et n'importe quoi sur des plateaux de télé, des fois juste par des simples journalistes qui n'ont jamais fait un 100 mètres et qui ont lu des infos sur Google. Donc en ce sens, je me suis dit, j'ai besoin de sortir, entre guillemets, mon média à moi, où je vais aller...
Où tu vas installer ton ton.
Mon ton, ma, si tu veux, ma vision du truc. Et surtout, donner une forme de parole à ces mecs-là qu'on a diabolisés. Ça, c'est un peu important pour moi.
Disrupteur.
Casser les codes, changer le game. Disrupt, c'est ça. En anglais, l'esprit disruptif, c'est qui change, qui fait différemment.
Ouais.
Et ben voilà, moi, là, on a commencé. Alors, il y a eu un pilote avec Georges Eddy qui est sorti préalablement. Mais le réel épisode, on va dire le réel premier épisode, c'est celui avec Tariq Abdulouad.
Gros,
qui est en deux parties.
En deux parties, mais deux parties, moi je les ai vues. Je les ai vues et les deux parties, je les ai avalées. Je les ai réellement avalées parce que le ton est installé et tu vois une aisance, une mise à l'aise, mais pourtant les mots sont forts. C'est des claques dans la bouche.
Bah écoute, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, l'important, comme je te dis, c'est de pouvoir rétablir certaines vérités, entre guillemets, sans prétention aucune. Hein. Personne ne détient la vérité, et moi y compris. Maintenant, comme je te dis, j'ai lu ou entendu certaines histoires racontées de manière publique qui ne sont pas forcément la vérité. Et des fois, parce qu'il faut faire la langue de bois, eh ben on ne connaît pas, nous, les auditeurs ou les téléspectateurs, le pourquoi du comment d'une situation. Je t'ai dit, j'étais proche de pas mal de joueurs dans le vestiaire. J'ai des histoires de vestiaires qui ne sont pas forcément celles qui sont racontées au grand public. Et pour moi, c'est important, sans mettre les mecs à mal, sans les mettre en porte-à-faux, eh ben, de leur donner une possibilité en tout cas de s'exprimer. Ils ont une aisance avec moi parce qu'il y a une relation personnelle ou en tout cas il y a un confort qui fait qu'ils vont se livrer différemment d'avec un inconnu. Et voilà, si ça peut permettre de donner un peu de clarté sur des situations ou même d'éduquer, pourquoi pas, la jeune garde là, qui ne connaissent pas forcément ces mecs-là.
Exactement. C'est important pour moi. C'est là où je te rejoins, c'est là où Off-Court est aussi dans cet état d'esprit, c'est qu'à un moment ou un autre, les joueurs, les sportifs sont des outils. On les utilise et une fois qu'ils ont terminé leur carrière, ça là, au State, si tu as ta carrière, tu peux te retrouver à avoir... Tu peux continuer à garder une certaine visibilité de ta carrière, de ta manière de voir la chose, de ta manière d'être. Mm-hmm. Nous, en France, moi je parle de la France, ta carrière est finie, salam.
Bah, à moins d'être un Tony Parker ou, tu vois, une exception...
Exactement.
C'est compliqué.
C'est compliqué, tu vois. Moi, je trouve ça aberrant qu'un joueur comme, par exemple, Mustapha Sonko, on n'ait pas pu le mettre en avant et qu'il y a des jeunes joueurs qui ne savent pas qui est Mustapha Sonko.
Non, mais ça, c'est un problème. Pour le coup, ça, c'est... Pour moi, c'est un problème, effectivement, français. On n'arrive pas à valoriser...
Les histoires de nos joueurs.
Nos joueurs ou nos athlètes, de manière générale.
Mais clairement.
Je veux dire, l'an dernier, j'étais au match NBA à Paris, là. C'était qui ? C'était les Bulls contre les Pistons, je crois.
Ouais, exactement. Killian Hayes.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
donc... Bah moi, je suis parti voir Nicolas Vucevic, pour le coup. Et donc, face à ces Pistons. Et il y a eu une petite cérémonie de valorisation ou de reconnaissance, on va dire, des joueurs français NBA, des anciens joueurs. Il y avait Joakim Noah, Maemni, je crois qu'il y avait Turiaf. Mais une fois de plus, ça, c'est l'initiative de la NBA qui vient à Paris. Et que parce qu'elle est à Paris, elle veut honorer, rendre hommage aux joueurs français. Mais ce n'est pas la FFBB qui fait cette initiative. Je ne pense pas, en tout cas, et j'en suis quasi sûr.
Je peux te le confirmer à 99%, voire à 100% que ce n'est pas d'eux.
Ce n'est pas une initiative franco-française d'honorer ces mecs-là, du Mike Pietrus. Mike Pietrus, pour moi, c'est un mec qu'on n'honore pas suffisamment. Alors certes, il n'a pas gagné les titres que Tony Parker a gagnés. Par contre, c'est un mec qui est en finale NBA. C'est un mec qui s'est fait lui-même. C'est un mec qui a été un vrai joueur NBA pendant de longues années, qui a porté le maillot de l'équipe de France. Pourquoi on ne parle pas de lui de manière...
Regarde, tu vois leur carrière. Ils se sont arrêtés quand ? C'est que cet été qu'on a parlé d'eux.
Ouais.
C'est que cet été, lors d'un match de l'équipe de France, on a parlé d'eux.
Ouais, et ça, c'est pour moi, c'est dommage parce que je ne te dis pas de leur faire des statues comme Jordan au United Center. Mais il y a quand même des choses à mettre en avant pour saluer le parcours de ces pionniers qui sont des... Tariq, c'est un pionnier. Qu'on le veuille ou non, Tariq Abdul-Wahad, il est drafté. Alors, il n'est pas le premier, mais il est le premier à jouer et à faire une carrière en NBA. Mais d'accord ?
À avoir une carrière. On va aller même beaucoup plus loin. C'est le premier joueur français à avoir sa paire de baskets.
Ouais. Mais c'est surtout le premier qui nous a permis... Moi, c'est ça.
D'y croire.
Pour ma part,
d'y
il y en avait deux. Moussonko nous a permis de croire que c'est possible de jouer au basket de notre manière à nous. Dans un cadre structuré. Ouais. Et Tariq, c'est celui qui nous a permis de croire que la NBA, en fait, c'est possible.
C'est possible, clairement.
Donc, pourquoi déjà ces deux mecs-là ne sont pas, honorés à leur juste valeur de pionniers qu'ils sont ? On a honoré Tony Parker, évidemment, il a gagné le premier titre pour un Français et surtout le premier titre de MVP et il est rentré dans le Hall of Fame. Et il mérite ses fleurs.
Il mérite.
Au même titre qu'un Tariq ou qu'un Moussonko.
Exactement. Moi, je te rejoins. Je te rejoins totalement sur ça et je trouve que c'est là où il y a le problème. On va revenir un peu sur ton média où tu me dis clairement tu veux mettre en avant ces profils de sportifs qui ont ce regard vis-à-vis aujourd'hui. J'ai pu voir qu'il y avait donc Abdul-Wahad. J'ai cru entendre qu'il y avait l'enfant terrible du football français. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je fais exprès d'utiliser ces termes-là parce que je les ai tellement lus sur la presse. Alors que j'ai eu la chance d'échanger une fois avec lui.
Et tu vois que c'est pas souvent la même chose que ce qui se raconte sur la presse.
C'est pas la même chose.
Je
parle de Nicolas Anelka.
C'est ça. Eh ben écoute, ouais, tu t'envoies une breaking news pour nos auditeurs. C'est le prochain sur la liste à sortir. Nico Anelka, ben voilà, ce sont des profils qui pour moi comme je te dis, tu casses les codes, soit par ta personnalité, soit par ton talent, soit par ta façon de faire. Tariq, bah, par son parcours, il a cassé les codes. Nicolas, c'est la même chose. Il a une personnalité qui a fait que il avait un talent exceptionnel. Pour moi, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, alors qu'il ait une part de responsabilité là-dedans, je l'entends. Mais comme tu l'as dit, la presse et les médias en ont fait un bouc émissaire. Et bah, c'est important, une fois de plus, si on peut œuvrer à un certain niveau pour montrer en tout cas qui il est réellement, parce que qui il est réellement, c'est sur Disrupteur, ce que vous le verrez, c'est pas sur Canal Plus ou sur beIN Sport.
On a hâte de voir ça.
et ben voilà, tu vois, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me donne envie d'échanger et de pouvoir permettre à cette jeune génération de comprendre comment ils peuvent voir aujourd'hui du Mbappé, du Wembanyama ou du Tony Parker même un petit peu plus anciennement. Mm-hmm. Ben parce qu'il y a eu des mecs qui sont passés avant et qui ont cassé les portes et qui ont forcé un peu les choses pour que ça puisse passer pour la génération future. Et ça, c'est important.
Ah, mais totalement, totalement. Et encore une fois, bon, j'ai annoncé avant le CEO de la venue de Nico, mais c'est fou comme quoi une carrière où on n'a rien demandé se retrouve détruite par des on-dit, par des prises de position, pas par des trucs où parce qu'on n'aime pas ta gueule.
Non, mais c'est simple. Alors j'ai pas tout dévoilé de l'entretien, non. Mais tu vois, à un moment il me dit, moi c'est simple, quand je suis arrivé au PSG, on m'a dit le moins tu parles aux médias le mieux c'est. C'est-à-dire que c'était une consigne presque du PSG. Il applique la consigne et au final, il se fait torpiller parce que quand tu parles pas aux médias, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils écrivent des choses sur toi. Et ils les écrivent pour que des fois, ça te fait réagir. Et au final, ils vont te faire parler. Mm-hmm. Mais quoi qu'il arrive, tu as perdu. Parce que si tu parles, souvent, ils sortent pas les propos ou alors ils les sortent du contexte. C'est pas tout à fait ce que tu as dit. Ou alors, si tu dis rien, ben, on t'invente une vie. Mm-hmm. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça, c'est là, vous le verrez le moment venu, dès que ça sera dehors. Il y a pas mal de choses intéressantes sur ça. Et en tout cas, il a raconté sa vérité à lui. Ah, et pour moi, c'est ce qui prévaut.
Ah, comme tu l'as dit, ça, il a lui-même, à l'image d'autres joueurs, il a cassé des portes. Il a permis aux jeunes de citer, je les mets entre guillemets, parce que même ce terme-là, jeunes de citer, ça m'exaspère parce que c'est très péjoratif. Alors que cité, si on revient au sens étymologique du terme, c'est juste un ensemble d'habitations.
C'est un ensemble d'habitations, ce sont voilà, des appartements, vois, même titre que dans le 16e ou ailleurs, clairement. Les appartements.
Et il est arrivé, il a donné cette force à tous ces jeunes-là qui pouvaient arriver avec leur football, leur grinta, pouvoir espérer briller dans le championnat professionnel.
Mais surtout que tu vois, il y a maintenant on est à l'ère des réseaux sociaux, tous ces multimédias où on a accès à toute l'information. Il y a eu un mime, je me rappelle, qui était sorti il y a quelques années là où Mbappé il disait on parle pas d'âge, moi on parle pas d'âge, ça partait partout. Mais ça me fait rire qu'en 2018 ou 19 on est ça. Anelka, il avait 16 ans, il a dit on parle pas d'âge. Quand il voulait jouer au PSG et qu'il s'en va,
qu'il avait déjà mis son but.
C'est qu'on lui disait t'es un gamin, t'as le temps. C'est bah, ça. Lui, il dit non, moi je veux jouer maintenant.
Je veux jouer, regardez.
Et il part à Arsenal et il devient qui
Arsène Wenger, il a dit je te parle pas d'âge, viens.
Meilleur jeune joueur du championnat, il gagne le championnat d'Angleterre. Après, c'est un gros transfert à Madrid. Alors, même si ça se passe pas super bien à Madrid, il met son doublé en demi-finale qui lui permet d'avoir la Champions League après.
Je suis désolé, avec le traitement de faveur qu'il a eu à Madrid, sortir comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui sortent comme ça.
Ah non, c'est clair. Non,
mais clairement. Kaira, puis, moi je le dis clairement, Kaira.
Ah non, mais c'est cette façon, c'est ça l'esprit qu'il faut. Au bout d'un moment, tu sais, la compétition, je suis désolé, il y a beaucoup, beaucoup de bons athlètes. Mais les greats, comme on dit en anglais, les meilleurs, ceux qui sortent du lot, ils ont une particularité. Ils ont un brin de folie, soit ils ont plus de tempérament, mm-hmm. soit ils ont plus de talent, mais il y a quelque chose en plus qui fait qu'ils vont forcer la porte, même quand elle est fermée. Et voilà, aujourd'hui, je veux dire, un mec comme Nico, c'est la même chose. Donc, tu parlais de mon rôle d'agent de joueur. Mais c'est Nico qui est un des précurseurs dans le milieu du football, d'amener ses frères en tant qu'agent. À l'époque, il s'est fait insulter pour ça.
Les gens, ils ne voulaient pas. Combien de fois les gens ont insulté les frères ?
Ouais.
Combien de fois les
Sali
gens...
son nom, le nom Anelka, les parents, tout, parce que les frères étaient derrière.
Parce qu'ils pensaient aux intérêts de leurs frères.
Sauf qu'aujourd'hui, Regarde LeBron James, il est avec Rich Paul. Regarde James Harden, il est avec sa mère. Regarde Mbappé, il est avec son père et sa mère. Regarde Rabiot, la maman est derrière. Regarde Neymar, Messi, c'est leur... c'est devenu commun.
Mais là, on dit rien.
Ah mais non, mais parce que le premier, c'est toujours le cobaye. Quand tu fais un truc au départ, t'es mal vu.
C'est toi qui prends toutes les bastos.
Exactement. Mais tu vois, précurseur. Et voilà, j'en dis pas plus, mais restez connectés, vous verrez.
On restera connectés. On va se diriger un peu vers la fin de ce podcast qui est alimenté de ouf d'anecdotes. C'est juste un kiff et un plaisir d'entendre tout ça. Et on va, aujourd'hui, je sais que tu es plus regardant sur la globalité du basket, du sport africain. Mmh. Est-ce que ça t'arrive quand même d'être attentif et d'être observateur sur ce qui se passe en France ?
Bien sûr. Je vais pas mentir. Je réside à Paris. Même si je passe beaucoup de temps à l'étranger, aux USA ou en Afrique, j'ai quand même un pied à terre en France. Je suis connecté avec la France. Ça reste là d'où je viens. En tout cas, 50% de mon ADN, tu vois.
Donc, ça ment pas.
Donc, j'ai les yeux sur ce qui se passe ici. J'ai encore quelques joueurs que j'accompagne sur le territoire, tu vois. Donc, voilà. Après, je suis très sélectif sur ma façon de travailler. Je peux pas me permettre, et puis je ne peux pas aider tout le monde et sauver tout le monde, entre guillemets.
Totalement.
Mais j'ai quand même un regard sur ce qui se fait en France dans le basket.
Quel est ton regard du basketball français aujourd'hui ? La jeunesse française dans le basketball ?
Écoute, le basket français, de manière générale, je pense qu'il a quand même évolué, en tout cas techniquement, physiquement, athlétiquement. Donc ça va évidemment de pair avec la jeunesse, parce que ce qu'ils avaient ce qu'ils ont de plus, pardon, par rapport à notre génération, c'est que nous, on avait 5 chaînes. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'avais pas Canal+. Donc, t'as la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. T'as ni une Freebox, ni téléphone, ni ordinateur, ni Internet.
Rien de tout ça.
Et t'as une télé 4 tiers par foyer. Donc, si ta mère regarde la télé, t'es coincé. Donc, tu sors.
Tu sors. Nous,
on sortait.
Nous, on était dehors.
On mangeait du bitume des heures et des heures et des heures. Donc, on avait moins de talent, je trouve, qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont accès avec justement leur téléphone, leur tablette. 5 télés par foyer, Internet en illimité et tout. Ils peuvent voir YouTube en replay, Bein Sport qui montre 2 matchs par nuit. Tous les jours, on n'avait pas ça, nous. On avait Canal+, qui montrait un match par semaine. Il fallait aller chez un pote qui avait Canal, qui l'enregistrait en VHS.
Et la cassette, elle tournait.
Tu vois ?
La cassette, elle tournait.
donc oui, pour revenir sur le basket français actuel, je pense que les gamins, ils ont 10 fois plus de talent. Parce que ça vient à eux naturellement. Il y a une évolution des techniques de travail, d'entraînement, les gabarits aussi. Il y a maintenant de plus en plus de grands déliés. Du Wembanyama, il fait 2m25, mais il y en a plein d'autres, des mecs de 2m10 aujourd'hui qui courent, qui sont mobiles, qui peuvent shooter. Donc ça s'est développé. Je pense que la seule particularité ou le bémol que j'ai envie de mettre là-dessus, c'est qu'ils ont tout pour eux. Il leur manque un truc. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de cœur. Et mentalement moins dur que ce qu'on l'était.
Je vais faire le vieux, mais moi j'ai des anecdotes où on entendait où dans tel playground ça gameait. Tu venais avec ton équipe, t'allais dans tel playground pour aller.
Mais on prenait des heures de RER pour aller jouer à Saint-Ouen-l'Aumône, à machin, à Choisy, à Marne-la-Vallée, à Torcy.
Pour aller se frapper.
Partout.
Pour aller se frapper. Là.
Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un Uber pour aller à la Hoops. Ils font une session avec 3 caméramans qui les filment pour finir sur Instagram. Et ils s'entraînent une heure.
Ça va pas dans les playgrounds des autres, ça va pas se mettre en danger. Parce que quand tu vas dans... T'as le talent, tu vas sur le playground d'un autre tiécard. Tu joues contre eux, mais tu joues contre tout le tiécard aussi.
Ah, tu joues contre
tout le tiécard. Parce que si ça se passe mal ou tu fais le ouf, sans les respecter, mon pote, prends ton sac et cavale.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué.
Je te le dis, moi j'étais au jeu de paume, par exemple, pour citer que cette salle-là à Créteil. On a joué, c'était à l'époque avec les Joachim.
Ouais.
Frérot, ça a joué. À un moment, ça a haussé le ton. On a dit, bon, ok, les gars, salam. Hein.
Ouais.
Ah, il fallait être prêt.
Mais c'est ce qui nous a forgé.
C'est ce qu'on se cassait la gueule sur les terrains.
Et, ouais. Et quand tu perds, quand t'es dans un playground ou un gymnase qui a 10 équipes et que tu perds,
rentre.
T'es cuit parce que tu dois attendre 4 heures pour que ça. Donc, ça te développe une espèce de culture de la gagne. Ouais. Tu dois gagner à tout prix, ne serait-ce que pour continuer à jouer.
Exactement.
Et je t'ai dit, aujourd'hui, déjà, ils font plus de playground. C'est très rare.
Très
et
rare.
Ils font que du indoor, du one ball ou de la hoops sur des créneaux d'une heure ou deux et ils pensent avoir travaillé.
Ou des terrains, des gymnases municipaux qui sont encore ouverts, il n'y en a plus tant que ça.
Plus tant que ça. Et c'est ça, et pour moi, c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'il y a une évolution telle que s'ils avaient conservé, on va dire, ces valeurs à l'ancienne, en les rajoutant à toute la plateforme, tout l'accès qu'ils ont aujourd'hui, là, on aurait eu un cocktail Molotov. Mais les mecs, ça aurait été des tueurs.
Ça aurait été explosif. Aujourd'hui, on voit au travers de. c'est pas les révélateurs, mais au travers des équipes de France Jeunes que c'est dingue. Et je vois qu'il y a un modèle économique qui commence à s'installer, difficilement, mais qui s'installe en mettant un peu la lumière sur les jeunes. Certes, on a eu des Wemby et des Bilal Koulibaly qui ont été tête de gondole, mais je trouve que voilà, aujourd'hui, tu vois pas mal de jeunes qui sont quand même dans les rosters, qui sont plus présents sur les rosters comparé à notre époque.
Parce que maintenant, comme tu l'as dit, il y a un modèle économique qui s'est mis en place. Les clubs européens, et on parle de la France pro à pro B, s'ils sont pas bêtes, aujourd'hui, ils sont au courant que quand tu fais drafter un mec, tu as une buyout de la NBA, donc une clause, on va dire, que la NBA paye pour libérer le joueur de son contrat. Donc si on sait à quel point le basket français est précaire, surtout dans les niveaux inférieurs. Dès qu'on descend Pro A, déjà, ce n'est pas la ligue la plus riche, on va dire, d'Europe. Pro B, N1, tout ça, c'est compliqué.
C'est ça.
Donc, quand on sait qu'on a une opportunité, si on fait jouer un joueur et le mettre en avant, de récupérer 850 000 dollars de la NBA pour pouvoir libérer, c'est pas négligeable. Et je pense que
c'est vraiment pas négligeable.
Les équipes, petit à petit, comprennent que voilà, on a besoin, si on a un prospect, de le mettre en avant, parce que s'il est drafté, il y a moyen de récupérer de l'argent. Et ça fait toujours du bien aux caisses parce qu'on fonctionne toujours beaucoup en subvention collective, étatique, régionale.
Sponsor privé.
C'est compliqué. Donc, je pense que c'est un business model qu'il faut de plus en plus mettre en avant. Et voilà. Et ça fera du bien et au basket français et aux gamins. On leur donne des opportunités de se montrer.
Comment tu trouves, comment tu trouves le projet Paris Basket dans sa globalité ? Et son envie de s'installer sur Paris, d'en faire une place forte du basket.
C'est un bête de projet avec la nouvelle salle qui est en train de se créer à Porte-de-la-Chapelle, avec mon ami grand monsieur Amarassi, l'amiral, qui est directeur sportif maintenant.
Tu vois, ça aussi, c'est des réussites et c'est des plaisirs pour nous de voir des gens qu'on a pu fréquenter, avec qui on a échangé des ballons, discuté, échangé des gâteaux et qui aujourd'hui sont des directeurs sportifs. Tu vois.
C'est l'écosystème dont on parlait en début d'émission et il est pas seulement limité au terrain, c'est-à-dire joueur ou coach. Il y a beaucoup d'opportunités de voir Amara impliqué dans le club de Paris, même si c'est pas le club où il a passé le plus de temps. Mais c'est le club où il a fini sa carrière. Il est originaire de Paris. Il va pouvoir, ça va permettre d'être un connecteur entre justement ces jeunes générations qui vont le comprendre. Enfin, il y a un vrai. Là, on parle pas d'un mec, sauf le respect que j'ai pour eux, mais d'un provinciaux ou quoi qui n'aurait pas la culture parisienne de la banlieue et tout.
Il représente l'ADN Paris.
Et en même temps, il a l'expérience professionnelle depuis plus de 20 ans au haut niveau. Il sait s'adapter et se trouve que ça bien. Et puis quand on voit que c'est un Américain qui est venu, qui a réinjecté dans un club de Paris, pour moi, c'est important. Paris, c'est la capitale d'un pays fort sportivement. Pourquoi on n'avait pas une vraie équipe de basket? C'était pas logique.
Et même ça, tu vois, à l'image d'Amarassi, Kevin Anstead qui était agent scout, qui aujourd'hui sont directeurs sportifs du CSP Limoges, ça insuffle une certaine jeunesse, encore petite, mais ça insuffle quelque chose d'hyper intéressant et ça prouve encore une fois que si tu veux rester dans le game sans être coach, sans être coach forcément, eh ben t'as plein de trucs à faire.
Moi j'attends juste le jour où, attention, j'envoie un pavé dans la mare, le jour où ça va bouger aussi au niveau des instances fédérales, parce que c'est là où pour l'instant ça bouge pas.
Ça. Je pourrais balancer un truc du genre mais pourquoi on n'a pas de coach Renoir?
Ah non, mais là, je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, ce que je veux, c'est que, comme tu l'as dit, le sang frais, la chair fraîche qui arrive dans l'écosystème du basket, avec, je pense à Johan Sangara à l'époque, général manager de l'ASVEL, TJ Parker, coach de l'ASVEL, même s'il s'est fait remercier là, il a quand même beaucoup gagné avec Villeurbanne.
Il a gagné à Villeurbanne, on peut lui dire ce qu'on veut, c'est son frère qui l'a installé. Un coach, il reste autant d'années, qui apporte autant de titres.
Ah, il a fait le boulot.
Il ne les a pas volés, il a fait le boulot.
Il a fait le boulot.
On peut lui dire, il a eu le budget. Il y en a qui ont eu des budgets qui n'ont rien fait. Hein.
Tout à fait. Donc de voir des Sacha Jifa qui était assistant coach l'année dernière de Wemby à Paris, de voir des Amarassi directeur sportif, toute cette nouvelle génération, on va dire, de mecs de notre âge qui reprennent, on va dire, des fonctions dans l'écosystème du basket de haut niveau, moi ça me plaît et j'attends de voir un de nos frères président de la FFBB ou président de la LNB.
Je veux le voir de mon vivant, ça.
Voilà, là on va peut-être arriver à quelque chose de concret.
Je veux le voir de mon vivant et ça sera hyper intéressant de voir cette chose-là et je pense que le basket aura pris un vrai tournant.
Bah, c'est là où ça bouge pas encore. Tu vois, les instances fédérales, ça bouge pas.
Ça bouge pas.
À l'INSEP, à la Fédé, c'est souvent les mêmes noms, les mêmes.
C'est
les chaises musicales. Mais voilà. Mais la bureaucratie, elle est bien installée. Et peut-être qu'un jour, on aura du 109 là-dedans et on avancera un peu plus rapidement et concrètement.
Je le souhaite en tout cas. Eh, François. Merci beaucoup
merci à
de
toi.
Cette aventure auditive.
Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
J'espère que les auditeurs vont pouvoir kiffer. En tout cas, ça glisse comme une lettre à la poste. Et ça n'a pas besoin de coupure. C'est sans filtre, c'est off-court. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite évidemment que de la réussite dans tes projets.
Je te remercie.
Et la santé. Et hâte de te revoir aussi dans la réussite qui fait shine tout notre écosystème qui est le nôtre.
Amen, amen. Je te remercie en tout cas. Force à toi, et puis écoute, tu n'hésites pas, on est connectés.
On est ensemble. Salut tout le monde, voilà, c'était Off Court avec Monsieur François et votre MC préféré. Oh, man! Hello!
Okay. Okay.
Monster Jam!
Okay. On va la faire courte, off courte, le podcast des basketteurs.
Ah bon,
ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale et j'en passe. Off courte, présenté par Smooth Smooth, là, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready.